la palette de sentiments qui lui manquait jusqu'à présent.
Radio G 101.5 FM. Radio-G.fr.
Il est 19h, vous êtes sur Radio G 101.5 FM et c'est l'heure de votre émission cinéma Clap and Chat. On va parler ensemble pendant une demi-heure de cinéma et pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la totalité de mon équipe avec moi, Kevin, Camille, Edgar, Laure et Cédric. Bonjour la team.
Salut.
Bonsoir. Merci d'être là, ça me fait plaisir de vous avoir tous au complet ensemble.
C'est un plaisir d'avoir un grand studio comme ça.
Oui, c'est chouette, je suis très contente. Au programme aujourd'hui... Comme nous sommes le 29 octobre et qu'Halloween arrive à grands pas, on voulait vous faire une émission spéciale spooky film d'horreur. Seulement, deux problèmes se sont posés à nous. Déjà, on est 6 membres de l'équipe, il y en a 5 qui ne regardent pas de film d'horreur. Donc c'était quand même très très restreint. Et ensuite, le 22 octobre, on a le film de Kaamelott qui est sorti. Et c'était clairement impossible de ne pas vous en parler pour nous. Donc, on a mixé les deux. Et on va commencer par vous parler de Kaamelott, deuxième volet, première partie, qui est sorti le 22 octobre dernier. Et ensuite, on passera en mode spooky, Kevin.
Ouh.
On parlera de Marche ou Crève, un trailer horrifique signé Francis Lawrence et qui est sorti le 1er octobre. Et enfin, toute l'équipe, on fera notre petite sélection de films d'Halloween en streaming tranquillement à voir chez vous en mangeant des bons becs. Alors, joyeux Halloween à tous. Et c'est parti pour Clap and Chat, épisode 3. Moteur.
Action. Clap and Chat sur Radio G
101.5 FM.
Et pour commencer, quoi de mieux que de parler de ma plus grosse attente de l'année, Kaamelott, deuxième volet, partie 1. Parce que chez moi, Kaamelott, c'est plus qu'une saga, c'est un peu une religion. Je pouvais pas passer à côté et ne pas dire de choses dessus, c'était trop important. S'il y avait que moi, on aurait carrément fait une émission spéciale Kaamelott, hein. Mais bon, on va parler aujourd'hui du dernier film qui est sorti, donc le 22 octobre, mais ça fait partie d'une plus grosse saga qui a commencé à la TV et qui après est arrivée au cinéma. C'est ancré du coup dans une trilogie de films en plus, mais une trilogie de films qui a la particularité d'avoir 4 films. Explication. Le premier film est indépendant, enfin, premier film. Et le deuxième est coupé en deux parties, ce qui fait que là, on va parler de Kaamelott, deuxième volet, partie 1, et que l'année prochaine sortira la partie 2. Et ensuite, on aura le troisième volet. On ne sait pas quand. Ouais, ce serait dommage à un film d'arrêter, ouais. Alors que ça fait 10 ans qu'on attend la suite. Ouais. Donc aujourd'hui, Kaamelott, deuxième volet, partie 1. J'arrête de parler, je vous mets la bande-annonce et on se retrouve juste après pour en discuter ensemble.
Une convocation. Vos beaux-parents ont bel et bien organisé la première réunion de la nouvelle table ronde.
Ben, si vous voulez la faire, faites-la. Moi, j'y vais pas.
Nous sommes convoqués à la nouvelle table ronde d'Arthur Pendragon.
Si on me convoque à la nouvelle table ronde, j'y vais.
En tant que vétéran, vous pouvez peut-être louper le début.
C'est un message des dieux, c'est sûr.
Je vous préviens. Si on n'arrive pas au bateau à l'heure, on part pas aujourd'hui.
Ah, mais deux secondes, peut-être, non?
L'aventure, c'est pas la va-vite.
Allez, hop, table ronde!
Passons directement au sujet principal de cette première réunion, les quêtes.
Oh, attendez, attendez, c'est Arthur Pendragon qui préside?
Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage!
Bon sang.
Hola, hola, hola!
Hola. Tout doux les foufous.
Pourquoi est-ce qu'on partirait à l'aventure?
Est-ce que les rois risqueront de n'être soudain plus personne?
Non mais vous connaissez ma loyauté, sire. Je n'en ai aucune.
De fouler les collines et les prairies nouvelles, d'où surgiront les adversaires. Et les alliés nouveaux.
Berlin!
Je viens ici te trouver.
Vous êtes sûr qu'on a besoin de tout ça?
Hé! Vous m'entendez?
Seront-ils des chevaliers? À vous de me dire.
Vous en étiez où avant que j'arrive?
On en était aux quêtes.
Qu'est-ce que ça disait?
Ça disait merde.
Mais c'est pas encore voté.
Alors, Kaamelott, comme je vous le disais, c'est une énorme saga. Ça a commencé en 2005 à la télévision sur M6, en format court d'abord, puis ça a pris de plus en plus d'ampleur jusqu'en 2009 où la série s'est achevée après une sixième saison très différente des premières. Enfin, c'est arrivé en 2021 au cinéma. On a attendu les films pendant très très longtemps. Donc 2021, la trilogie a commencé et cette année, le 22 octobre, deuxième volet, partie 1. Kaamelott, c'est l'histoire de la légende arthurienne, mais version Alexandre Astier, c'est-à-dire que c'est une légende arthurienne très 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 librement adaptée, avec un humour absurde, presque parfois élitiste, et des idées de scénarios qui sont très croustillantes, mais qui sont vraiment très libres. Aujourd'hui, on parle de cette nouvelle étape de cette saga qui est le nouveau film, Kaamelott, deuxième volet. Partie 1. C'est évidemment toujours réalisé par Alexandre Astier. C'est sorti le 22 octobre et c'est actuellement dans toutes les bonnes salles de cinéma. Autour de la table, qu'est-ce qu'on en a pensé? Kevin, je sais qu'on était dans la même salle à l'avant-première. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu tes ressentis?
Oui, alors je vais déjà partir du postulat que j'adore Kaamelott et j'adore l'univers d'Alexandre Astier. À peu près.
Spoiler alert.
À peu près tout ce qu'il fait, je trouve ça vraiment bien. Cela dit, j'ai vraiment beaucoup aimé le film. J'ai passé un très bon moment. J'ai pas vu passer les 2h20. C'est vraiment très intéressant. Je trouve que visuellement, il est un petit peu plus joli que le premier. Bon, la musique, on n'en parle pas. Elle est toujours très bien puisque c'est toujours Alexandre Astier qui compose. Donc après, alors évidemment, c'est 2h20. Et en fait, c'est quelque chose que j'avais déjà dit du premier film en 2019, c'est que j'ai trouvé que c'était 2 heures d'introduction. Pour un peu se remettre dans la saga, etc. Et là, on a de nouveau 2h20 d'introduction. Parce que c'est le début des quêtes, tout le monde essaye d'arriver dans l'univers, etc. Donc c'est une nouvelle fois une très longue introduction.
Je partage totalement ce que tu dis, mais c'est un peu la malédiction des deux de trilogie, un peu, en fait.
C'est ça, et surtout d'un 2 qui est découpé en 2, finalement. C'est qu'en fait, on a l'introduction d'un film de 4 heures, mais...
Mais du coup, on n'a que 2 heures.
Ben, on n'a que 2 heures, on aura les 2 heures l'année prochaine. Donc c'est un peu, pour moi, ce qui pêche, c'est qu'effectivement, ben, on se retrouve avec un film qui a l'impression de ne pas être abouti et d'aller au bout, avec un scénario qui peut être un peu... un petit peu en deçà. Après, quand on l'imagine dans son ensemble de cette trilogie en 4 en 4 numéros, ça peut faire son sens et je pense que c'est pas mal d'avoir aussi. Alors, il y a énormément de personnages, hein, ça, on peut s'y perdre un petit peu, mais chacun a une petite histoire, un petit scénario qui
et une identité propre.
Et une identité propre avec bon, les personnages habituels, mais aussi les nouveaux. Donc oui, il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que ça donne l'impression de ne pas être abouti, mais attendons l'année prochaine pour.
c'est intéressant ce que tu dis parce que je partage le fait que effectivement, t'as ce côté très introductif, etc., etc., qui peut être long et qui peut semblablement n'amener à rien, ce qui va être faux puisqu'il y aura 2 autres films. Mais en même temps, je me dis waouh, ça a commencé il y a 20 ans. C'était 2 gars sur un plan séquence dans un plumard. L'image, elle était très banale. Et là, on a sur des trucs, on est sur un vrai film fantastique. Des films fantastiques français, on n'en a pas non plus des centaines et des centaines. Donc moi, je trouve que c'est assez qualitatif.
Et avec des VFX qui sont,
sont assez convaincants. Oui, carrément.
Totalement. Franchement.
Totalement. Camille, t'en as pensé quoi? Toi, tu as été le voir récemment, il me semble.
Oui, je suis allée le voir très récemment. Et j'ai beaucoup aimé l'esthétique. du film, comme disait Kevin. Ouais. La musique, évidemment. On retrouve nos personnages qu'on aime bien. Même s'il y a des absents. Je ne sais pas si on va parler de Frank Pitiot qui joue Perceval et qui n'est pas dans ce film.
On le dit parce que c'est pas un spoil. Alexandre Astier fait énormément de promotion là-dessus. Enfin, et on a énormément parlé en promotion, donc ce n'est pas un spoil.
Mais est-ce qu'on va en parler C'était ça, non, truc.
Bah, on peut en parler entre nous sur les réseaux si vous avez des choses à nous dire. Si vous avez fait le film Kaamelott et que vous avez ressenti un manque ou que vous l'avez ressenti, n'hésitez pas à nous écrire et on sera ravis de débattre avec vous parce que Kaamelott, on est toujours ravis de débattre dessus de toute façon.
Mais j'ai trouvé que justement, dans Kaamelott, donc Perceval est vraiment très important. Et ici, il n'est pas présent physiquement, mais il est présent quand même d'une certaine manière. Et on l'entend, en fait. On entend sa voix en quelque sorte.
Oui, dans notre tête.
Moi aussi, j'ai entendu. Je pense que les vrais fans, on l'a vraiment ancré, sa façon de parler et tout ça. Du coup, moi, j'ai un coup de gueule, en fait, sur ce qu'on vient de dire. Frank Pitiot part, ce qui est extrêmement triste et presque décevant, j'ai envie de dire. Ça en fait tout un scandale et tout ça, mais il y a eu un absent lors du premier film qui est Simon Astier et que personne n'a rien dit dessus et je comprends pas.
Il sera là dans le prochain, par contre.
Il sera dans le prochain, donc je suis très contente que là on en reparle enfin, mais je comprends pas pourquoi il y a eu tout un truc sur Frank Pitiot, mais pas sur Simon Astier. Je trouve ça extrêmement dommage parce que pour le coup, Simon Astier, la trame narrative de Yvain, dans le premier film Kaamelott volume 1, c'est point mort. On n'a pas d'infos ou quoi. Là, avec Perceval, on a quand même des informations sur lui, ce qui n'était pas du tout le cas sur Yvain dans le premier volet.
Exactement. Alors que là, pour le coup, on a effectivement des petites infos qui nous arrivent sur le sort d'Yvain.
On espère, en tout cas. Bon, après, on a vu les castings, on sait qu'il sera dans le prochain, donc normalement, il n'y a pas trop de suspense.
Il ne devrait pas y avoir de suspense.
Il n'y a pas trop de suspense. Il y avait quelque chose que je voulais rajouter. On a dit que le scénario partait un peu... En fait, il y a tellement de quêtes parallèles et tout ça que c'est un peu dense et en même temps, c'est le début des quêtes, donc ça n'avance pas des masses, des masses. Ça reste quand même très plaisant à voir. Et il y a un truc que je voudrais souligner, c'est les deux filles de Caradoc qui partent à l'aventure
comme des chevaliers.
J'ai trouvé ça trop, trop bien d'intégrer les filles, du coup, certainement à la future table ronde. C'est totalement une spéculation, hein. Mais on les voit dans la bonne annonce partir à l'aventure et tout ça. Et j'ai trouvé ça trop bien et je voulais souligner ce petit truc.
Effectivement, j'y avais pas pensé.
Et ben voilà, mais c'est pour ça qu'on en discute. C'est génial. C'est tout le but. Est-ce que vous aviez des choses à rajouter sur Kaamelott? Vous pensez qu'on a fait le tour? Moi, je partage globalement tout ce que vous avez dit.
Alors, on n'a pas vraiment fait le tour, mais on a plein de choses à dire, mais on a dit les choses les plus importantes.
Radio-G nous laisse 7h30 pour parler de Kaamelott, si tu veux.
On fait une spéciale.
Et ils ne le savent pas encore. Non, globalement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. On a beau être très, très fan de l'univers d'Alexandre Astier, on en est tout de même assez objectif.
Essayons de l'être, en tout cas.
Ouais, on est assez critique. Hein. Le film n'est pas un chef-d'œuvre, mais il est très, très agréable à regarder. On avait tous des attentes. On n'est pas forcément tous comblés sur la même échelle. Mais dans tous les cas, Kaamelott, deuxième volet, c'est actuellement au cinéma. N'hésitez pas à aller vous faire votre propre avis.
Exactement.
Parce qu'il vaut quand même le coup. C'est un film qu'on a dit qui est fantastique, qui est très joli. C'est une vraie épopée. Ça montre que le cinéma français sait faire plein de choses. Donc, allez vous faire vos propres avis en salle et dites-le nous sur nos réseaux. On est ravis, encore une fois, d'échanger avec nous. Et Kevin va pouvoir nous faire son petit « ouh » parce que c'est à présent le moment de passer en mode spooky. C'est parti. Vous êtes toujours sur Radio G 101.5 FM et vous écoutez Clap and Chat, votre émission cinéma. Et comme c'est Halloween dans deux jours, on va parler d'un trailer horrifique actuellement au cinéma, Marche ou Crève. Edgar, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ce film, s'il te plaît ?
Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, Marche ou Crève, comme tu l'évoquais tout à l'heure, il a été réalisé par Francis Lawrence.
Il a tellement meilleur accent que moi, je suis dégoûté.
Sorti début octobre 2025. C'est un film qui est adapté du roman Stephen King. Je vous pitcher un petit peu l'histoire. Donc, dans un futur un peu dystopique, vous avez 50 jeunes garçons qui vont participer à une compétition appelée la Longue Marche. Le principe, ils doivent marcher sans jamais s'arrêter. Et en fait, ils vont, s'ils ralentissent trop longtemps, ils sont éliminés. On suit le jeune Ray Garaty, un adolescent ordinaire qui se trouve pris dans cette épreuve, à la fois physique et mentale. À la clé, le vainqueur de la marche peut demander tout ce qu'il souhaite. Francis Lawrence, on l'a vu aussi, c'est lui qui a réalisé Hunger Games, la saga Hunger Games. Donc, voyez cette atmosphère un petit peu incroyable. Chaque pas, chaque souffle, chaque silence ont pesé tout au long du film. On sent la fatigue, la peur, la solidarité qui se fissure entre les différents participants. C'est un film sur la survie et la résistance.
Très bien, c'est un beau speech. Très très beau speech. Qu'est-ce que tu as pensé toi de ce film ?
Donc moi, ce film, comme on l'évoquait tout à l'heure, hein, Hunger Games, ça m'a un petit peu fait penser à American Nightmare. Tout au long du film, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Il y a beaucoup de surprises. Alors, c'est pas un film d'horreur, mais c'est un film quand même qui est psychologique, je dirais, thriller psychologique. Donc,
c'était un peu présenté comme ça, vraiment un peu horrifique. C'est thriller, thriller horrifique, c'est le bon terme, je pense.
Oui.
C'est pas horrifique dans le sens créature, etc. C'est plus vraiment une pression, comme tu disais, un peu à l'Hunger Game, mais un peu poussé plus fort, parce qu'Hunger Game, c'est un peu teen movie.
Oui,
là, c'est quand même poussé un peu plus fort.
Oui, et puis il n'y a pas de filtre, en fait.
Oui, non, c'est clair. C'est clair, c'est beaucoup plus violent qu'Hunger Games. Seth, tu l'as vu aussi ? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en as pensé ?
Oui, exactement. Effectivement, je trouve que c'est pas forcément à mettre dans la catégorie horreur. J'ai un peu de mal avec ce type de film. Ce type de. Déjà, la catégorie horreur, elle regroupe trop de trucs. Il y a des trucs. voilà. Et ça, typiquement, certes, c'est un peu cru, un peu bourrin, un peu. On voit des morceaux de corps humain qu'on n'est pas censé voir, forcément. mais voilà. Il y a des choses. C'est cru, quoi. Il y a un rapport. Comme tu parlais, hein, y a l'élimination un peu violente, plus ou moins, ça dépend des. Voilà. Et effectivement, on joue beaucoup sur l'aspect psychologique de cette. Une horreur un peu psychologique, mais ça va aussi sur la psychologie de tous ces personnages. Ils ont chacun un peu leur façon d'être, leur psychologie, leur façon de réagir à ce qui va se passer.
Et puis il y a un truc un peu philosophique aussi dans leur conversation. Hein.
Oui. Non mais oui, totalement. Oui. Hunger Games, je savais pas que c'était le même gars qui avait fait Hunger Games. Il y a quand même un petit parallèle sur ça.
C'est un principe très similaire déjà.
Voilà. Non mais ouais, c'est un bon film. Après c'est pas le meilleur de l'année. Je trouve que au bout de dès qu'on a compris un peu le truc, voilà. c'est pas. Je pourrais revenir un peu sur la réalisation aussi, qui est quand même intéressante, parce que on est quand même tout le temps sur le groupe. On ne s'écarte jamais. Il n'y a pas un truc.
Je voulais en parler aussi, donc voilà. Je rejoins ce que tu dis.
On est tout le temps. Tout le temps, voilà.
Mais moi, presque, j'ai trouvé ça dommage qu'on soit tout le temps sur ce groupe de marcheurs. Pour dire un peu plus en détail, c'est pas un spoil, donc on va y aller. Cette longue marche, c'est vraiment une émission de télé. Et en fait, on ne voit pas assez ce truc, je trouve, de retranscription, de. Tu vois, ça m'a manqué un peu de voir
les
ça.
Les caméras, oui, c'est vrai.
Mmh. Ouais. Ouais, mais je pense que c'était fait exprès pour aussi être dans la tête de ces jeunes où ils ne savent pas forcément que. Qui les regarde ? Est-ce qu'il y a encore beaucoup de monde qui les regarde ? Est-ce que c'est vraiment suivi ? Est-ce qu'ils ne savent pas ? En fait, ils sont sur leur longue marche, mais au final, ils ne savent pas ce qui se passe autour d'eux, ce qui est logique.
C'est intéressant ce que tu dis, et j'avoue que je ne l'avais pas vu comme ça. Par contre, j'ai trouvé que derrière ce film, il y avait une critique sociale qui était forte, en tout cas qui se voulait forte. Et je pense que voir ce truc de télé, ça l'aurait rendu encore plus fort.
Ouais,
c'est un peu ce qui m'a manqué globalement dans le film, c'est qu'on aborde une critique sociale qui peut être hyper intéressante, mais on va pas au bout.
Après, je pense, comme tu l'évoques, c'est vrai que dès le début du film, les jeunes, ils s'attendent à avoir de la foule tout au bord de la route. Et plus on avance, et puis comme on le disait, hein, sans spoiler, ils attendent ce côté télé.
C'est un peu tout le truc du film aussi, l'attente, voilà. le temps qui
passe. Très palpable.
Mais oui, pour le coup, moi, ça m'a un peu manqué. J'ai beaucoup aimé les acteurs, j'ai beaucoup aimé la réalisation aussi, comme tu as dit. C'était simple, mais c'était très efficace. Mais par contre, j'ai trouvé qu'il manquait de contenant, en fait. Contenu, pas de contenant, sinon ça ne marche pas.
On se serait éloigné, je pense, de l'horreur psychologique si on avait vraiment tout vu, avec des explications, avec tout ce qu'il y a autour. On serait plus avec les personnages 100% du temps. On n'aurait pas cette pression de est-ce qu'il va ralentir, est-ce que. Voilà, parce que ça aurait fait des pauses, je pense.
Ouais, c'est possible, peut-être. Non, mais c'est un débat à avoir de toute façon. Non, mais c'est très intéressant parce que j'avais pas pensé à ça. Il y avait une dernière chose que je voulais dire sur Marche ou Crève, c'est Mark Hamill. Est-ce qu'on peut parler de Mark Hamill qui est quand même là et qui est là tout le long, qui est un personnage important, et on en fait que ça? Non, moi je suis extrêmement déçue de voir si peu de Mark Hamill dans ce film.
Ouais, bah du coup il joue le rôle d'un colonel un peu mystérieux, puisqu'au final c'est pareil, on connaît rien du tout, même à la fin, on connaît rien du tout de ce perso, à part que c'est lui qui organise ça, et puis est-ce que c'est le grand méchant, enfin un peu quand même.
Bah, et puis on connaît même pas son implication, voilà, au final, tout. La
oui,
grande
c'est ça,
marche.
C'est, on sait pas à quel niveau c'est. Mais bon, c'est lui qui organise ça en tout cas.
Moi, j'ai un peu ce point de déception, ouais, sur Marshall Crève qui ne finit pas sa critique sociale et qui ne se sert pas assez de ses acteurs qui sont très bons. Marshall Crève, c'est actuellement en salle, c'est sorti le 1er octobre. N'hésitez pas à aller le voir, comme on a dit, c'est pas un film qui est vraiment très horreur, c'est beaucoup plus physique en soi que psychologique, donc tout dépend de votre tolérance. Mais Marshall Crève, allez le voir en salle et n'hésitez pas à nous faire votre retour. Et avant de se quitter, on va vous partager notre petite sélection d'Halloween. Toute l'équipe avait envie de vous dire un petit peu son film d'Halloween. C'est que des films qui sont disponibles sur les plateformes ou en VOD. Comme ça, vous pouvez regarder tranquillement dans votre canapé en mangeant ou en distribuant des bonbons. On va chacun choisir un film et chacun va nous en parler. Camille, est-ce que tu peux commencer par nous donner ton film, s'il te plaît ?
Alors moi, ce sera, comme je suis pas très film d'horreur, ce sera Harry Potter à l'école des sorciers. Que tout le monde a vu ici, je pense.
Oui.
Alors pourquoi j'ai choisi, c'est parce que c'est donc il y a une ambiance magique et mystérieuse. Il y a un côté sombre, mais qui est juste dosé. Il y a l'introduction de Voldemort qu'on voit boire du sang de licorne dans la forêt interdite. Il y a une scène avec un troll le soir d'Halloween justement. Il y a un chien à trois têtes qui fait peur aussi quand même un peu. Il y a des éléments typiques d'Halloween, des sorciers, des sorcières, des balais volants, etc. Et l'esthétique du film, il correspond parfaitement au thème d'Halloween.
Et je suis tout à fait d'accord. Elle me regarde comme si elle avait des questions. Mais non, je suis tout à fait d'accord. Je voulais juste rajouter un petit truc parce que Camille recommande à juste titre Harry Potter et même toute la saga qui est une très bonne saga cinématographique. Mais je tenais particulièrement à ajouter, et toute l'équipe de cette émission tient à préciser, que nous nous opposons totalement aux propos de J.K. Rowling sur les personnes trans, pardon. Ici, à Clap & Chap, on le redit, on l'assume, on le redira tant que ce sera nécessaire. On est pour la liberté de chacun et de chacune. On soutient la communauté transgenre et toutes les communautés qui sont victimes d'oppression, peu importe la nature de celle-ci. La transphobie, ce n'est pas une opinion, mais c'est un délit. La transphobie tue et on ne peut pas laisser des propos pareils être dits en toute impunité. C'était important pour nous de le dire. Je ne voulais pas être associée à ce genre de propos. Ce n'est pas du tout dans mes convictions personnelles et je ne pouvais pas laisser cette autrice parler trop fort et j'espère parler plus fort qu'elle. Et sans transition aucune, parce que c'est dur de faire une transition après ça, on revient à notre sélection de films d'Halloween. Allez. Et Kevin, est-ce que tu peux nous parler de ton film ?
Ah oui, alors j'ai choisi un film qui est sorti en même temps que moi, qui est arrivé sur Terre en même temps que moi. C'est un film qui est sorti du coup en 1990, alors aux États-Unis, qui est sorti un petit peu plus tard en France en avril 91, qui est un film de Tim Burton et qui est le premier film de Tim Burton avec la collab Johnny Depp, qui va donner un certain nombre de films par la suite. Et c'est donc le film qui s'appelle Édouard aux mains d'argent, qui est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé depuis mon plus jeune âge. Et alors, même si à la base c'est effectivement un conte de Noël, hein, Édouard aux mains d'argent, mais à 8-9 ans, un gars un peu émo avec des mains en forme de ciseaux, je vous avoue que ça fait un peu peur quand même. Donc donc je l'ajoute dans les films d'Halloween parce que voilà, il y a un petit peu cette ambiance un peu terrifiante, okay. même si ça reste dans l'idée un conte de Noël et c'est un film assez intéressant d'ailleurs sur le regard des autres, le rejet, etc. Donc c'est il y a plein de choses dans ce film. Mais voilà, c'est un joli petit film d'Halloween pour moi, je trouve.
Édouard aux mains d'argent, c'est un de mes films préférés de tous les temps. Ah, ça fait partie de ma sélection, donc je suis très content que tu l'aies choisi. Je reviens deux petites secondes sur Harry Potter, c'est disponible sur Prime Video, si vous voulez. Et Édouard aux mains d'argent, c'est disponible sur Disney+. De manière générale, de toute façon, hein, là on parle de Tim Burton, mais on vous conseille toute la filmographie de Tim Burton, hein, ça colle parfaitement à Halloween, donc il n'y a pas trop de surprises là-dessus. Edgar, tu peux nous donner ton film, s'il te plaît ?
Bien sûr, alors moi non plus, je ne suis pas trop fan des films d'horreur en général, mais il y a un film qui m'a marqué, qui est sorti cette année, c'est le film Signers.
En même temps que lui.
Voilà, exactement. Le film Signers de Ryan Coogler. Ça a été une vraie claque. Franchement, l'histoire se passe dans les années 30, dans le delta du Mississippi. Vous avez deux frères jumeaux, tous les deux joués par Michael B. Jordan, qui est un acteur que j'aime beaucoup, qui reviennent en fait dans leur ville natale pour ouvrir un petit bar où les gens pourront venir danser, boire et jouer du blues. Au début, l'ambiance est un petit peu chaude, pleine de vie. Et puis peu à peu, quelque chose de sombre s'installe. Donc c'est à ce moment-là où voilà, ça fait un petit peu flipper, mais ça reste raisonnable. Vous avez en fait une présence, un mal surnaturel, presque biblique. Et la bande son, franchement, Ludwig Göransson fait toute la différence. Ils avaient déjà collaboré avec. Et dans Signers, le blues devient mystique, presque hanté. Vous avez la musique, la moiteur, la lumière aussi. Tout participe à cette ambiance, à la fois belle, sensuelle et terrifiante. C'est vraiment le film parfait pour Halloween, envoûtant, profond et un peu possédé.
C'est un choix super audacieux et je suis contente que tu l'aies pris et je comprends ce que tu dis. C'est un peu le seul film vraiment de cette section qui est très adulte. Donc tu remplis le quota, c'est parfait, merci beaucoup. Laure, toi, tu avais choisi quoi comme film ?
Ta-da-da-da ! Bon alors évidemment, mon film d'Halloween référence, c'est bien sûr La Famille Addams. Le film est sorti en 91, donc comme toi Kevin du coup.
À peu près.
Il fait suite au BD de Charles Addams et de la série de David Levy. Dans cet opus, la famille Addams va faire face au retour pour le moins intrigant de l'oncle fétide disparu depuis 25 ans. Alors entre manoir ténébreux, guillotine à poupée et goût du morbide, je vous conseille de vous laisser happer par l'humour grinçant de la famille la plus déjantée du gothique. Vous retrouvez ce premier film ainsi que le second, Les Valeurs de la Famille Addams, en VOD et sur plusieurs plateformes de streaming. Et évidemment, je ne pouvais pas vous laisser partir sans l'anecdote de Laure. La Famille Addams a été réalisée par Barry Sonnenfeld, mais est-ce que vous savez quel réalisateur les scénaristes avaient en tête à l'origine ?
Tim Burton, je sais rien. Je sais
pas. Attends, t'as donné une réponse et moi j'avais. Alors, on va faire comme si tu savais pas. Alors, vous donnez votre langue à la chose. Bon, t'avais raison. Donc, du coup, t'auras droit à des bonbons d'Halloween.
Incroyable.
C'est bien Tim Burton. Moi aussi, j'étais très étonnée quand j'ai fait la recherche. Et pour le coup, en fait, il a décliné parce qu'il était déjà sur d'autres projets.
Voilà. Ouais, ça marche très bien. La Famille Addams, c'est une valeur sûre. Hein. De toute façon, Halloween, moi, je l'ai découvert il n'y a pas très très longtemps et effectivement, ça marche très très bien. Cédric, tu peux nous donner ton film s'il te plaît?
Oui, et ben on va continuer sur Tim Burton. J'ai essayé de trouver, de me rappeler d'un truc que effectivement j'avais vu il y a quelques années, qui est pas si connu que ça de Tim Burton. C'est Frankenweenie. Il y a eu deux films. Il y en a eu un en 84, live action, donc pas spécial si on le revoit maintenant, et sinon de l'animation en 2012. Je pense que tout le monde connaît Frankenstein. Et bah c'est pareil mais avec un chien et un enfant. Voilà.
D'accord.
C'est un peu spécial. Non mais c'est un peu l'idée hein. C'est quand même plus basé sur les enfants, mais ça reste très sombre. C'est tout en noir et blanc. Ça va apprendre aux enfants aussi le rapport à la mort, puisque c'est vraiment sans spoiler hein, mais en gros l'idée c'est que c'est un petit enfant qui perd son chien et qui le ramène à la vie, et un peu à la manière de Frankenstein hein, tout simplement. Voilà. Ça reste très doux aussi, ça reste comédie, le chien va faire des bêtises machin, mais voilà, c'est l'idée de tout ça, de voilà.
J'aime beaucoup ce choix. On reste encore dans Tim Burton évidemment, mais effectivement c'est pas un Tim Burton qui est extrêmement connu, donc je merci beaucoup pour ce choix. Et du coup moi.
Toi oui Nino.
Mais oui moi.
J'allais poser la question.
Alors très spontanément, mon corps m'a dit prends un Tim Burton, et je me suis dit cherche un peu plus loin que ça quand même. Et au final, j'ai choisi un film, peut-être même deux, qui sont très très liés et qui sont Disney. C'est Le Manoir Hanté et 999 Fantômes, et son reboot plus moderne, Le Manoir Hanté. Les deux sont sortis respectivement en 2003 et en 2023, et ils sont extrêmement liés puisqu'ils sont tous les deux adaptés de l'attraction The Haunted Mansion.
Ah, ok.
Qui est, du coup, c'est la maison hantée des parcs Disney aux USA. En France, on a aussi une maison hantée, mais qui n'a pas tout à fait la même histoire. Donc là, c'est vraiment basé sur celle des États-Unis. Okay. Les films sont très fantastiques, c'est aussi bien spooky et en plus c'est très drôle, c'est très familial. Et ils ont une grande qualité, c'est celle de mettre en avant des acteurs de la communauté noire avec des rôles spécialement faits pour eux. Très très contente de ça et on valide de surcroît ce film pour ça. Donc Le Manoir Hanté et les 999 Fantômes et Le Manoir Hanté, les deux sont dispo sur Disney+. N'hésitez pas à aller le voir, c'est vraiment très familial. Merci, tous ces films, ils sont retrouvés du coup comme sur les plateformes comme on a dit. Merci à tous, nous arrivons à la fin de cette émission. Toute l'équipe est avec moi aujourd'hui, je suis très contente qu'on soit tous les six en studio, c'est la première fois. Donc merci à vous d'avoir été là.
Merci Ninon.
Merci à tous, on le rappelle, Kaamelott deuxième volet et Marche ou Crève, c'est actuellement au cinéma. N'hésitez pas à aller les voir. Merci de nous avoir écoutés sur Radio G 101.5 FM. Vous pouvez nous retrouver dans 15 jours, le 12 novembre, pour un nouveau Clap and Chat. Ce sera toujours sur Radio G. Et tout de suite, on vous laisse un petit peu de musique. Et dans la soirée plus tard, il y aura Rudy's Back, l'émission punk de Radio G. Et en attendant, laissez-vous embarquer par de belles histoires et vivez l'émotion sur grand écran.